Au fil de l'eau, revient sur cette antenne radio-judaïque. Devant l'eau profonde du fleuve, vous pouvez choisir différentes visions. Vous pouvez voir ou ne pas voir, au gré de vos envies. L'eau est immobile ou avec un courant, mais les fleuves, les rivières de notre belle région sont sans ambiguïté. Car si on veut voir, c'est magnifique, et si on veut entendre, c'est splendide.
Ils battent les flots, les fleuves et les canaux. Et on ne les voit jamais que le pied à quai. Marin de terre ferme, ouvrier d'eau douce, personne ne connaît la chanson du marinier.
Alors, nous allons découvrir ce monde de la batellerie et des mariniers à travers des rencontres, des reportages, des coups de cœur, beaucoup d'émotions au fil de l'eau. Embarquez ! Voilà, nous sommes lundi et j'ai plaisir d'avoir autour de moi Pascal Papillon, dit Butterfly. Alors Pascal, quel est ton mois de naissance ?
Mon mois de naissance, décembre.
C'est le signe alors ?
Le Sagittaire, avant de s'en servir.
Sagittaire avant de se servir. Ton année ?
54, une bonne année.
Ouais, 20. Et tu es retraité actif ?
Je touche ma retraite et je suis actif, oui.
Retraité actif. Et ta passion ?
Ma passion, la vie.
La vie. Magnifique.
Quand on est pirate, il faut être acrobate et savoir grimper sans se casser le nez. Oh, is, oh, is, oh, eh.
T'as vu ça ? Acrobate, s'accrocher, c'est un peu ce que t'as fait dans ta vie. Je pense que t'étais un ancien professeur d'éducation physique dans l'outre-forêt, perdu du côté de...
Soultz, sous-forêt.
Très belle expérience.
Très belle expérience de sport, de nature, de jeunesse et d'éducation, donc de transmission.
T'étais un canoë là-bas ? Pas de canoë ?
Là-bas, c'est plutôt rando.
Rando, pas de cadeau. La Modère, pas visité, les castors, rien fait, au bord de la Modère.
La haute vallée de la Sauer.
Oh là là.
Côté d'Obersteinbach.
Superbe.
Au bout du monde.
Au bout du monde, où il y avait une ferme à canards.
Oui, toujours.
Toujours, avec des chevaux.
Absolument.
Des petits poneys islandais. Mmh. Voilà, c'était une très belle région. Alors là, on va prendre la porte, on va aller au bord du Rhin. L'Écluse Nord, je pense que c'est ton domaine là, quand on commence à longer cette voie éphémère au bord du canal, et ben tu as quelque chose de magnifique qui est un château, comment ça s'appelle ?
Alors le château magique est à Pourtalès, dans ce magnifique parc, oui. Connu des Strasbourgeois.
Des arbres magnifiques.
Des arbres magnifiques, des espaces magnifiques.
Et là, tu fais la planche.
Je fais la planche.
Oui, comme tu sais, quand tu fais
sur
la planche...
Louis,
non, bah sur le gazon, Tu fais la planche sur le gazon.
Hein ? Alors je fais non seulement la planche, mais ce matin, par exemple, la salutation au soleil.
C'était
une forme de planche, oui.
Oui, c'est une forme de planche. Alors tu as toujours des expressions qui sont... Il faut le dire, parce que tu es un professeur de yoga, on peut le dire.
J'aime partager le yoga. Oui.
T'aimes le partager le yoga. Et t'as une pratique du yoga très incitative.
Incitative et personnelle.
Personnelle. Alors tu peux décrire ça en quelques secondes. Oh, je sais que c'est long, mais quelques secondes.
Si on parle de yoga ?
Ouais.
Alors imaginez le ciel.
On le voit.
On le voit. Donc vous connectez au ciel. Un certain temps, quoi. Bon. Après, il y a la terre. Donc on va plutôt vers le bas. Et on se connecte à la terre.
On s'ancre.
On s'ancre, tout à fait. Donc on a déjà l'ancrage ciel et l'ancrage terre. Après on part à l'horizontale ou en latérale pour balayer de droite à gauche, de gauche à droite, pour se rappeler que nous sommes connectés à tout ce monde vivant et à cette humanité qui nous accompagne sur cette belle planète.
Alors, ça me fait penser à quelque chose, parce que il est libre, Max.
Il met de la magie. même pour les imbéciles. Ils s'amusent bien, ils tombent jamais dans les pièges. Ils se laissent pas étourdir par les néons des manèges. Il vit sa vie sans s'occuper des grimaces que font autour de lui les poissons dans la nasse. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Il travaille un petit peu quand son corps est d'accord. Pour lui, faut pas s'en faire, il sait doser son effort. Dans le panier de crabe, il joue pas les homards. Il cherche pas à tout prix à faire des bulles dans la mare. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Garde autour de lui avec les yeux de l'amour. Avant que t'aies rien pu dire, il t'aime déjà au départ. Il fait pas de bruit, il joue pas du tambour. Mais la statue de marbre lui sourit dans la cour. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler.
Est-ce que Pascal est libre?
Oui.
Libre comme Max?
Comme l'air.
Comme l'air.
Et comme un papillon.
Comme un papillon. Ah, c'est beau ça. C'est bien fait ça, libre comme l'air et un papillon. Alors je sais que tu as beaucoup voyagé, dont tu as t'occupé d'une association qui était Alsace-Tibet.
Alsace-Népal.
Népal.
Mais il y a l'Himalaya par là-bas, tout à fait.
Alors, je sais que tu n'aimes pas qu'on parle Tibet, que tu préfères qu'on parle de l'Himalaya. C'est plus général.
C'est plus nature.
Nature.
Et moins culture.
Moins culture. Alors, tu avais quelque chose qui était extraordinaire, parce que tu es un homme de projet. Et moi, j'avais réservé ma place dans un EHPAD. Et où c'est cette affaire d'EHPAD? Elle est où, cette affaire d'EHPAD? C'est fini, on ne peut plus aller faire sa retraite et terminer sa vie au Népal.
Mes amis népalais nous attendent, Marc, quand on veut.
Oh là là.
Ils sont là.
C'est un beau projet, ça.
Ça reste.
Ça reste un beau projet.
Un projet.
Alors, qu'est-ce que tu as aimé, toi, au Népal?
Leur manière de dire bonjour, namasté, les deux mains jointes sur le cœur.
Ça, c'est déjà une porte d'ouverture.
C'est une porte, ouais. Et le sourire.
Le sourire.
Et des personnes qui ont peu ne donnent pas parce qu'elles ne peuvent pas donner. Néanmoins, elles partagent ce qu'elles ont. Et quand tu as faim et soif à 3-4 000 mètres d'altitude, un peu fatigué, c'est des bonheurs simples et essentiels.
Alors je sais que tu as fait pas du trek, hein, tu es vraiment parti à la découverte trek un petit peu. Quel a été le début de ton départ au Népal, ton...
Voyage, c'était l'Inde la porte d'entrée. Et de l'Inde, le Népal est pas loin. Voilà, donc c'était passer de l'Inde au Népal et de voir deux mondes différents.
Alors, tu peux nous parler de ces gens, comment? Parce que tu dis qu'ils sont très généreux, hein, ils ont le sourire. Tu échanges en anglais?
En anglais, oui, en anglais. Parce que là, ouais, la langue, mais c'était un peu compliqué, puis il faut du temps. Voilà.
Mais par les gestes aussi, les yeux?
Par les gestes et puis par la marche.
La marche.
La marche, la marche. Ou quand on marche sur la terre, sous le ciel, et qu'à 4000 mètres, il nous en reste encore 5000 au-dessus, ça donne une certaine notion de la relativité par rapport à notre Europe, à notre Mont Blanc, à voir les choses un peu différemment.
Et tu as pu voyager comme ça? Tu as été où? De où à où? C'est quoi la capitale? Tu es allé...
Si on parle Népal?
Oui.
Katmandou.
Katmandou.
Katmandou, c'est la capitale, voilà. Et du coup, voilà, moi je devais rêver de Katmandou comme les jeunes en rêvaient dans les années 60. Donc, moi, j'ai découvert ça, moi, dans les années 80.
80.
Et ça ne correspondait pas au rêve que je m'en faisais, effectivement. Puisque c'est des villes, finalement, où il y a de l'activité, du bruit. Donc il est bon de s'éloigner pour aller dans les collines, dans la montagne, pour trouver le silence.
Et tu es allé dans les collines et tout, et tu t'es évadé où alors? Où c'est que tu as trouvé un monastère?
Pour les gens qui connaissent, à l'époque et toujours, il y a différents tours possibles. Il y en a un qui c'était le tour de l'Annapurna, ou des Annapurna. Donc un petit tour qu'on peut faire en 2-3 semaines, quoi, selon. Et bah, ça m'a enchanté, quoi, de partir à 0 mètre, passer un col à 5005 ou 5002, gravir tranquillement toutes ces étapes. Toi qui connais l'élévation, hein, oui, donc Marc, oui. Donc c'est une sorte de chemin d'élévation, quoi.
Absolument, quelque chose comme ça. Tu sais que je suis très sensible à ça, au voilà. Chemin d'élévation.
Voilà, donc c'était tout à fait ça. Et voilà, et après, donc à un moment donné, il y a un summum, quoi. Et la question, c'est quand tu es en haut de la montagne, ma foi, qu'est-ce que tu fais? Ben, quand tu continues, quoi.
Hein, donc c'est là où tu pratiques quelque chose qui me sublime tout le temps, ton credo en trois, le silence.
Oui.
Le sourire.
Oui.
Et l'immobilité.
Oui.
C'est une belle philosophie, ça.
Oui.
Alors, tu peux développer pourquoi le silence?
Le silence, parce qu'il y a le dialogue, et les sons, et les bruits, et les chants, et la vie. Donc, c'est le contrepoint nécessaire pour équilibrer.
Après, le sourire.
Le sourire, parce que l'humanité a mille et une bonnes raisons d'exprimer toutes ses émotions et toutes les couleurs de l'émotion, comme l'arc-en-ciel, et de pouvoir revenir au sourire, quelles que soient les situations de vie que chacun traverse, dans la facilité parfois, dans la difficulté parfois, retrouver le sourire intérieur ou retrouver le sourire de l'autre, je pense que c'est ce qui permet de continuer à vivre.
Alors à cette table, je peux vous dire une chose, il y a du sourire, dans le bocal ça sourit, partout ça sourit, on se sent lévitation, je sens qu'on monte tout doucement. Et après l'immobilisme.
L'immobilisme parce que pour les gens hyperactifs comme moi, et les gens d'action, il y a intérêt à se poser de temps en temps, quoi, et pas seulement par le sommeil, quoi, aussi dans ces journées. Donc c'est de nouveau un contrepoint qui permet l'équilibre.
Qui permet l'équilibre. Mmh. Alors ces trois, je dirais... étape, petite pierre que tu le mets au quotidien dans ta vie?
J'essaye, mais et surtout j'aime le partager, moi c'est ça. Hein, c'est-à-dire que si on refait juste un petit crochet, par exemple le Népal, une fois que je me suis initié, j'ai tout de suite eu envie de le partager, et dans les années 80, j'ai pu le partager avec des élèves du collège de Soulsouforêt, et on est parti en Himalaya ensemble, et on a créé, donc, par exemple, donc c'était ce partage-là.
Alors, il y a quelques années, 2013, je ne te connaissais pas, tu as débarqué dans un magnifique Vito noir, splendide Vito noir. Et il y avait un complice que je recevrai dans quelques temps, un complice que je recevrai, qui m'appelle désespéré et qui me dit « J'ai quelqu'un qui veut absolument au mur païen ». Alors j'essaye, je suis toujours autour du mur païen, on enchaîne les choses, mais c'est comme au bord de l'eau, et c'est comme cela que se font les choses, tout doucement. Alors, juste avant d'attaquer la suite, on attaque quelque chose qui tient et tu me diras pourquoi tu as choisi ce morceau-là.
Thank you.
Stevie Wonder, c'est quoi pour toi?
Stevie Wonder, c'est une,
parce qu'on n'est pas au Népal,
une belle musique, voilà, une belle voix, mais c'est en lien avec Il est libre, Max, c'est la liberté.
C'est toujours la liberté.
Et j'ai eu la curiosité à un moment de ma vie, il n'y a pas très longtemps, de chercher à comprendre les paroles. Donc j'ai vu la traduction en français. Et les deux premières lignes, où la rivière coule, et coule hein, de toute façon, et se dirige vers l'éternité. Donc ça m'a touché. Et pour moi, ça résumait tout ce que je connais du yoga. En deux lignes, en deux phrases, il résume le yoga. Et comme le yoga, c'est la vie, pour moi, ça résume finalement toute la vie. Donc le génie de Stevie Wonder, en une chanson, en deux lignes, bon, tout est dit, et ça me...
Ça te transporte.
Oh, c'est bon.
C'est bon. Alors, nous, on s'est rencontrés en 2013. Je reviens sur cette anecdote. J'échappe toutes les histoires. On a fait une rencontre avec quelqu'un qui était merveilleux, le professeur Subhash de Bangalore. C'est toute une époque. Et ça, c'est aussi une deuxième maison. C'est ta deuxième maison, ça.
La deuxième maison, l'Inde, c'est ma deuxième maison.
Deuxième maison.
En fait, ouais. C'est même... Ouais. Je suis chez moi, quoi.
Tu es chez toi. Ouais. Et Bangalore.
Et du coup, il y a un concept qu'on appelle alsindien, quoi.
Ouais.
Donc ceux qui sont un peu alsindiens, un peu alsaciens, un peu indiens, enfin, un peu citoyens du monde, quoi.
Un peu citoyens du monde.
Et Bangalore, bon, c'est une ville, une grande ville. Hein, je pense à rien non plus d'extraordinaire. C'est pas un paradis, quoi. Hein, voilà. Mais bon, c'est
un
endroit.
Il y a une belle université.
Il y a une belle université, à la fois où cette amie Subhash Sharma, que nous avons rencontrée ensemble dans la forêt vosgienne, officie en tant que professeur, directeur, hein, et a formé, des hommes et des femmes hein, à leurs responsabilités, donc des étudiants. Une belle université, puis une autre université de yoga, où je m'épanouis depuis 2007. Hein.
Voilà, et où voilà. Tu as tes lettres de noblesse de professeur.
J'avance et je suis en train d'essayer de finir un doctorat avec
un peu de difficulté.
Avec un peu de difficulté, voilà, mais bon, peut-être ça viendra un jour.
Et qu'est-ce que tu as appris de l'Inde?
De l'Inde? Tout ce qui n'est pas donné est perdu, j'ai appris de l'Inde.
C'est beau.
Tout ce qui n'est pas donné est perdu.
Et par rapport au Népal?
Et par rapport au Népal, c'est quand même une culture très voisine parce qu'on retrouve, je dirais, des bases culturelles ou religieuses identiques ou très proches. Donc pour le moment, là, dans notre échange, je ne pourrais pas trop
développer,
voilà, même si vraiment... en taille, quoi, c'est-à-dire que l'Inde, c'est tellement immense, quoi, hein, avec 1,5 milliard d'habitants... Voilà, et le Népal, plus petit, quoi, avec moins d'habitants. Quoi, voilà.
Et dans l'Inde, ils ont eu un rapport à l'eau qui est très particulier.
Un rapport à l'eau, oui. Ouais, ouais, mousson comprise.
Mousson hein, comprise.
Pour, s'ils veulent manger, ouais, chaque année. Ouais.
C'est important.
Et la fête de l'eau, et la fête des... Oui, ouais, c'est très important.
L'eau est quelque chose de très présent.
Bah, l'eau est vitale. Hein, l'eau sans est eau, vitale. Pas de vie, mais c'est ce qu'on est en train de comprendre, là.
Oui, on le comprend
en
tout
2022.
Oui, on commence un peu à le comprendre.
On a l'info, quoi.
On a l'info, maintenant c'est à nous à savoir comment on va la traiter, cette info. Alors, je reviens sur Bangalore. Bangalore, toi, tu m'as toujours dit, écoute Marc, tu verrais cette jeunesse, elle est dynamique, elle est... souriant.
Incroyable.
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 Cette volonté...
c'est ça, de l'Inde, c'est une force vitale incroyable. Alors voilà, donc c'est jeune aussi, mais aussi une extrême pauvreté. Et donc les gens, je dirais, dans des conditions sociales, vitales, de santé extrêmement précaires, tous les jours, repartent, redémarrent, etc. En tout cas, j'avais le temps d'observer ça dans mes années de voyage, quoi. Hein, sachant que chez nous, ça se passe aussi, hein, bien évidemment.
Alors, bien sûr, avec cette rencontre en 2013, où j'étais un Celte rectif, voilà, et où tu as amené cette culture européenne hindoue, ou hindoue-européenne, Monsieur Subhash, ce professeur, ramenait ses racines pour prouver qu'il y avait une liaison à travers les millénaires entre cette région de l'Inde et notre Europe.
Ouais.
Tu peux un peu expliquer la recherche, parce qu'on l'a vécu ça tous les deux.
Donc ça, c'est quand même incroyable, quoi. Donc pour ça, ben, ma foi, ce qui était bien, c'est d'être en action sur le sentier d'élévation sur lequel tu nous as guidés.
Le chemin des demoiselles de pierre à Maudkirch.
Voilà, hein, donc ça c'était essentiel hein, de pouvoir être en mouvement. On était une belle équipe à ce moment-là, hein, réunie. Et sur ce chemin, ben, il y a eu des moments magiques en lien avec la nature, hein, bien sûr avec la pierre, avec l'eau, les minéraux, les végétaux. Des arrêts, puisque tu as vu, mes amis indiens, dès qu'ils sentaient un lieu un peu plus adapté ou énergétique, je ne sais pas dire,
oui,
s'arrêtaient, méditaient, priaient, quoi. Hein, ça venait, enfin, priaient, se concentraient, quoi. Sur, voilà, et pour eux, peu importe hein, s'ils étaient ici ou là, parce que la nature, de toute façon, c'est notre mère, quoi. Hein, voilà.
Et en fin de compte, on a fait de la liaison entre...
Voilà. Alors, ces druides celtes que l'on appelle les brahmanes de l'Occident. Non. Donc là, quand on est tombé sur cette information, sur ces panneaux, sur ce sentier, on était scotché.
Ah, scotché, bien sûr. Ça a été une très très belle rencontre qui a perturbé aussi ma vie à moi, hein, parce que on m'a sensibilisé à des choses que je faisais naturellement, et j'en ai pris conscience, et grâce à toi, et à cet accompagnement d'amitié que nous avons depuis un certain temps, nous sommes sur un chemin avec Dame Nature très proche. Alors on appelle ça la sylvothérapie, on me sent plaisante, il murmure aux arbres cet homme. Bon, c'est pas la question. La question aujourd'hui, à l'aube d'une nouvelle vie pour toi, parce que tu es entre retraite et... Quel était ton objectif? Quel bateau tu vas prendre pour aller naviguer vers où?
Alors, il y a une chose que je voudrais dire, puisqu'on parlait du Rhin, tu parlais du Rhin tout à l'heure, c'est qu'il y a une association qui s'appelle Alsace-Rindia. Ouais. Hein, donc, s'il y a des gens qui sont intéressés pour pratiquer du yoga du côté de Portales, ils sont bienvenus. Sauf que le nom de cette association a un sens par rapport à ta question. Donc, Alsace-Inde-India, on comprend, et le Rindia, des fois, on comprend moins. Donc, ça veut dire qu'il y a le Rhin qui est là, qui sert de moyens hein, de passage entre, mettons, ces deux régions du monde, hein, différentes par la taille. Mais ce qui est très important pour le Rhin, c'était un conte qui est dans un des ouvrages dit « Papy, parle-moi de l'Alsace hein, », où le grand-père dit à sa petite-fille « Ce Rhin que l'on a longtemps pris pour une frontière et qui est en fait une voie de communication. » Et le jour où j'ai réalisé ça, il y a eu une belle émotion. Lié finalement à la manière dont les humains ont de prendre les choses, la vie, fixer des frontières, etc. Et finalement, en gros, soit développer la paix, soit développer la guerre. Quoi, voilà. Et moi, je préfère largement la paix à tout ça. Donc la suite, c'est vivre en paix ensemble, ça c'est important. Trouver les moyens pour. Et les projets après viennent naturellement, quoi. Il n'y a pas trop pour le moment...
Alors, le rucksack, je sais qu'il est toujours prêt dans le coin. Voilà, le bâton de marche aussi.
Ouais. Le beau que tu m'as aussi prêté, offert. Hein,
voilà. Et surtout le chapeau, parce que t'as un chapeau à Indiana Jones qui est magnifique. Mmh. Voilà. Alors, il va se mettre quand, ce sac sur le dos, le bâton et le chapeau sur la tête pour partir? C'est quand le...
Alors, c'est tout, c'est chaque jour. Parce qu'en fait, comme disait aussi Maurice Herzog, qui a gravi l'Annapurna dans les années 60, en rappelant qu'il y avait plusieurs Annapurna ou d'autres Annapurna dans la vie des hommes. Donc je pense que moi qui suis un nomade, un peu sédentarisé, bah, chaque jour je prends mon sac, mon bâton et mon chapeau et je vais à la découverte, comme ce matin,
voilà.
D'un moment, d'un lieu.
Alors écoute Pascal, et ben déjà tu vois, le temps s'écoule à une vitesse effrénée, d'où l'émission. Au fil de l'eau, tu vois, de la conversation. Si tu as, je répète, tu devrais répéter ton association, parce que c'est une association qui est ouverte à tout le monde et tout le monde peut venir.
Voilà, Alsace-Rindia, un tiret, on trouve ça sur les réseaux, vous pouvez prendre contact.
Voilà. Pascal Papillon au Portales. Et il fait des initiations, découvertes au yoga, aux approches de différentes choses. Et maintenant, j'aimerais terminer par quelque chose. Je sais que tu m'as amené sur un chemin très particulier, qui est la sensibilisation à Madame Dame Nature. Et je t'en remercie parce que depuis 2013, ben, mon parcours, et tu le sais, de vie est complètement différent parce que tu m'as sensibilisé à cela. Et j'ai vraiment plaisir à t'accueillir ce matin, comme ça, dans cette improvisation non prévue de cette balade qu'on échange souvent tous les deux et qu'on échange comme ça à bâton rompu. Donc voilà, Pascal Papillon, heureux de t'avoir eu à cette table.
Merci. Marc.
Et à la semaine prochaine, j'aurai le plaisir d'accueillir quelqu'un, le plaisir du vin. Oh, voilà, ça va être, vous verrez, on va naviguer sur plutôt des rouges, blancs, on verra, plaisir du vin.
Martelé, au rythme d'un moteur régulier, un bruit répétitif aux effluves de gasoil, et ça cogne du cœur jusque dans la cale. À la croisée des usines et des cathédrales, des jours passés à noyer le temps et les paysages, une mélodie oubliée entre la Seine et l'Oise, chants de bateliers, les fleuves, les canaux, les rivières, chante le refrain oublié du voyageur linéaire, toute une vie qui se traîne en longueur, de Paris, Anvers ou Amsterdam, au rythme de l'eau et du moteur, endosser sa vareuse et son vague à l'âme, vogue la galère et les instants de bonheur, finir les fins de mois, même à la rame, prendre le temps qui s'écoule tout en douceur. Au café du port, ils prennent les nouvelles du mariage de l'un, du décès de l'autre. Revoir son fils qui préfère vivre en ville, ou de sa fille qui est restée pensionnaire. Parler de la Somme comme si c'était du Nil. Écluser des verres et tenir bon le comptoir. Un chargement de souvenirs bien ancrés. En avoir plein la tête et plein la cabine. Remonter à bord et vaille que vaille. Garder le cap et tenir bon le gouvernail. Chante batelier, la chanson anonyme du canal. Chante le refrain de la galère, sans manivoile. Toute une vie qui se traîne en longueur, de Paris, Anvers ou Amsterdam, au rythme de l'eau et du moteur, endosser sa vareuse et son vague à l'âme, vogue la galère et les instants de bonheur, finir les fins de mois, même à la rame, prendre le temps qui s'écoule, tout en douceur.